Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Le MUMIG, musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grand-Fezinque, poursuit en 2026 son partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin autour des questions d'habitabilité. Dans le cadre de ce partenariat, trois journées d'études sont organisées pour inviter chercheurs et chercheuses, habitantes et habitants et passionnés à questionner les relations que nous entretenons avec les éléments terre, eau, air et feu dans les Grands Causses. Alors que de profondes mutations climatiques et écologiques bousculent aujourd'hui nos représentations et nos modes de vie, allant jusqu'à menacer l'habitabilité de la terre et de nos territoires, dans quelle mesure les collections muséales, comme celle du MUMIG, peuvent-elles aider à penser et à redéfinir les liens que nous entretenons avec les Grands Causses? C'est tout l'objet de ces journées d'études qui s'articulent autour de conférences et tables rondes le matin, des ateliers pratiques l'après-midi et des soirées grand public où les chercheurs et chercheuses sont invités à présenter de manière sensible et performative leur rapport aux éléments convoqués. Radio Larzac est partenaire du MUMIG sur ce projet pour enregistrer et diffuser une trace sonore des échanges et des réflexions qui ont émergé lors de ces trois journées. Nous vous proposons à l'écoute sur nos ondes et un podcast plusieurs enregistrements effectués pendant ces journées d'études. La première journée s'est déroulée le samedi 11 avril 2026 et tournée autour de l'eau et de la terre dans les Grands Causses. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage recueillant la parole émergée pendant les ateliers de l'après-midi, animés par les chercheurs et les chercheuses qui ont réuni plusieurs habitantes et habitants passionnés par ces sujets.
C'est un endroit qui est difficile à cultiver, c'est là où il y a les bêtes sauvages, enfin, qui est peu sûr. Voilà.
À l'atelier Formation des paysages et mondes souterrains, animé par Philippe Vernant, géologue, et Katia Fersing, directrice du MUMIG, les participantes et participants étaient invités à partager leurs récits de mondes souterrains.
Moi, je suis éleveuse, là, sur le côté du Larzac, et c'est les mondes souterrains qui m'ont fait penser à ça. On a une partie de la ferme qui est assez ouverte au niveau végétation, et une partie de la ferme qui est très forestière. L'automne, on met les brebis dans des grands parcs, qui sont sur... du coup, c'est du parcours, mais avec majoritairement du pin, du genévrier et beaucoup de buis, et beaucoup de cailloux et un peu d'herbe. On les laisse dans les parcs à peu près une semaine, on va les voir tous les jours, et puis après on les change de parc. Et puis un jour je rentre les brebis, il en manquait une. Donc je retourne dans le parc et je cherche la brebis, donc j'appelle. Et ce parc je le connais très bien, enfin, je fais deux fois par an le tour de la clôture, donc je connais très très bien, et puis je vais chercher les brebis souvent. J'appelle, bon je trouve pas, une fois le tour, deux fois le tour, bon je commence à me dire, bon bah voilà... Elle a été mangée ou je sais pas ce qui lui est arrivé. Et là, j'entends que ça répond, parce que quand on appelle les brebis, souvent, elle répond. Et du coup, j'ai suivi, puis j'étais avec le chien qui suivait. Et donc, à un moment, le chien, il part dans une espèce de trou. Enfin, il y a beaucoup de buis. Et sous les buis, un trou comme ça sous les buis, hop, il s'engouffre. Je dis, tiens. Du coup, je suis le chien, donc sous les buis, en fait. Et puis, c'était assez pentu. Et un espace, je pense, à peu près grand comme la salle, avec plein de trous, en fait, au sol. Et c'est, je pense, des terriers de blaireaux. Mais vraiment, je suis arrivée dans une espèce de salle et je me dis, c'est fou, je connais très très bien, ça fait 16 ans que je suis sur cette ferme, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un endroit comme ça. Et en fait, la brebis, elle s'était un peu coincée dans un trou, voilà, comme ça. Et c'est grâce à la brebis que j'ai trouvé cet endroit. Et du coup, j'aime bien cet endroit et j'y amène souvent les enfants de ma sœur et je leur dis, on va aller au terrier des sorcières. Et je leur raconte, j'ai créé une légende, moi. Et du coup, c'est marrant parce que maintenant, quand ils m'en parlent, ils disent, est-ce qu'on peut aller au terrier des sorcières? Et voilà. Et c'est vraiment, en gros, enfin, c'est grâce à la brebis que j'ai découvert un peu ce, pour moi, vraiment un monde souterrain. Et c'est assez incroyable cet endroit. Je savais pas qu'il y avait des villages de blaireaux.
C'est presque la découverte, voilà, de Lascaux.
C'est comme ça.
Alors moi j'ai participé à l'atelier Formation des paysages et mondes souterrains et j'ai choisi cet atelier là parce que ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Pour être honnête, j'avais hésité avec un atelier qui était sur justement l'eau qui déborde, où il y avait un aspect plus sociologique. donc qui me parlait aussi parce que du coup j'ai fait des études de sociologie, mais là voilà, j'ai voulu sortir un peu de cette réflexion-là et aller vers un domaine plus géologie, géomorphologie. L'idée de cet atelier justement c'était de nous interroger sur notre rapport au territoire et notamment au territoire d'Écosse, et donc en fait à travers diverses expériences que chacun a pu vivre sur le territoire. L'idée, c'était de voir un peu qu'est-ce que ça pouvait nous procurer comme sensation, notre façon aussi d'être au territoire. Il y avait par exemple différents acteurs à l'atelier. Il y avait un spéléologue, il y avait une personne justement qui était artisan dans la Lauze. Et donc, ça permettait de voir voilà, qu'ils avaient un rapport sans doute un peu différent à cette terre, mais finalement, leurs différents rapports créent une histoire commune sur ce territoire d'Écosse qui est quand même assez particulier.
À l'atelier sur les usages de l'eau, animé par Cédric Champollion, hydrogéologue, les discussions tournaient autour de notre rapport sensible à l'eau, à l'ère du changement climatique et de l'anthropocène.
Il me semble de façon de plus en plus nette, en fait, que cette conscience, en fait, de ce que tu disais, on a bien conscience aujourd'hui que l'être humain est un agent géologique, ça s'apparente à ça. Avec ça arrive, à mon avis aussi, un niveau de conscience, de responsabilité, en fait, qu'on n'avait pas nécessairement tout à fait de la même manière, en fait, en tout cas, me semble-t-il. En même temps, ce qu'on vit, nous, d'autres ethnies ou d'autres peuples le vivent depuis bien longtemps, hein, dans les déserts, c'est aussi dans les contes ou dans les fictions. Hein, et ça me fait revenir, en fait, sur cette question du temps, parce qu'en fait, je me dis, si des gens parviennent à vivre dans des déserts, c'est que il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps qui permet un ajustement, un accordage. Alors qui n'est pas forcément tout rose tout le temps. Hein. Il y a des choses de génération en génération où on s'accoutume en fait à un manque, on le travaille différemment. La question de la vulnérabilité et de la nôtre en particulier me semble fondamentale dans le sens où peut-être que quelque chose peut partir de là, quoi. Mais en même temps, si on n'a pas le temps, ça risque d'être un peu compliqué, parce que quand tout va vite, ou trop vite, c'est pas que ça aille vite, parfois ça va vite, hein, un torrent ça va vite, mais c'est qu'une partie de la rivière. Donc je ne sais pas moi comment on peut se débrouiller avec tout ça, mais dans tous les cas, vulnérabilité pour moi me semble nécessaire, et puis encore une fois, se donner du temps, c'est-à-dire du temps pour continuer de comprendre, mais pas que, parce qu'on est dans une civilisation qui soi-disant c'est beaucoup, et malgré tout, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'était le piège de l'anthropocène. C'est pas tous les hommes, en fait, dont on peut dire qu'ils sont responsables de ce qui nous arrive globalement. C'est une certaine civilisation qui fonctionne d'une certaine manière.
J'ai choisi l'usage de l'eau parce que je pense que c'était celui où j'avais peut-être pas le moins de connaissances, mais en tout cas j'avais moins réfléchi. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'y réfléchir. Donc on avait une carte de la région et on nous a donné des post-it et on nous a demandé d'écrire une phrase ou un mot qui nous a marqué pendant la matinée. Et donc on a tous écrit un mot et on l'a posé où on le voulait sur la carte. Donc après on a tous discuté en fait sur soit ce qu'on avait écrit, soit rebondi ce que les autres disaient, ce qu'on a vu ce matin. C'était une discussion, c'était un débat. Ouais.
D'autres réactions, soit en écho, soit complètement différentes. Hein. De toute façon, on pourra y revenir. Là, on a commencé sur les vertus curatrices, voilà. Et sur peut-être les...
Christelle Gramaglia, sociologue, a animé l'atelier sur l'eau qui déborde.
Aujourd'hui, par contre, j'ai un rapport à l'eau qui monte en moi et qui est source d'angoisse. On va dire, c'est plutôt à la fois le déchaînement de l'eau et l'absence d'eau qui sont des choses qui me questionnent beaucoup en ce moment.
Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a marqué ici?
Ouais. Alors, je l'ai marqué là dans les post-it, j'en ai mis deux. Je l'ai situé au Cirque des Baumes parce que c'est un endroit que je connais particulièrement bien. Au Cirque des Baumes, il y a une maison. Cette maison, on a une vieille maison cosnarde qui n'a jamais été vendue. C'est-à-dire que les gens qui y habitaient encore jusqu'à quelques années, c'était un vieux couple qui avait hérité de la maison depuis toujours. Et elle me racontait que la source qui coulait au pied de sa maison, d'histoire familiale, elle ne l'avait vue assécher qu'une fois. Et c'était vers 2003-2004. Et là, ça faisait 2 ans qu'elle s'asséchait d'affilée. Et maintenant, c'est même plutôt rare de l'avoir coulée. Donc c'est ces mémoires-là de l'eau. Et juste en aval, il y a une résurgence qui s'appelle Fond Mort, que beaucoup se connaissent. Fond Mort, j'y suis allé là, il y a pas longtemps. Et suite à un autre hiver très pluvieux, en fait, Fond Mort, c'est une énorme résurgence qui est canalisée avec des murs en pierre tout le long. C'est un endroit magnifique. Cette année, les murs en pierre sont très largement éboulés. Et cette année, en fait, les pluies incessantes ont provoqué l'écroulement de ces murs que j'ai toujours vus. J'y vais tous les ans à cet endroit-là. Et donc ça, effectivement, c'est dur. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que la résurgence sort. Et un peu plus en aval, il y a deux trous qui visiblement ont coulé cette année et qui, pareil, ont fait des dégâts sur des aménagements qui ont plusieurs siècles, quoi. Donc ça, c'est des choses qui, moi, me questionnent parce que c'est affectif, c'est du patrimoine, c'est...
Sur le Larzac, en enregistrant une source assez proche, avec des petits clapotis, des choses, là, au moment où on a le casque sur les oreilles et qu'on se concentre sur l'enregistrement, du coup, on entend tout l'environnement sonore, très lointain, parce qu'on attend le moment où ça va être vraiment pur pour pouvoir... Et là, je me suis rendu compte, alors on est dans une nature, on dit « qu'est-ce que c'est sauvage ici ? Il n'y a personne, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il y a, combien d'endroits comme ça ?» Et là, je me suis rendu compte que j'entendais les voitures qui descendaient de la cavalerie, des avions qui passaient, et j'ai eu un mal fou, en fait, à attendre un moment. Donc, j'ai enregistré avec, parce que finalement, voilà. Mais il y a effectivement cette pollution sonore qui est vraiment bizarre avec le casque, alors qu'on est dans un milieu complètement sauvage.
Le son est aussi utilisé par des collègues qui utilisent des hydrophones et qui essayent justement d'évaluer le transport sédimentaire. Une rivière qui fonctionne bien, elle est capable d'arracher des matériaux à ses berges et de les transporter, ce qui va engraisser, on parlait des plages de l'océan ou autre. Enfin, voilà, on a besoin de ce charriage de matériaux. Une rivière en bonne santé, c'est une rivière qui a la force de charrier ces matériaux-là. Et donc, ils ont développé des modèles acoustiques pour essayer, à partir du bruit, des galets ou du sable, de modéliser un peu ce transport sédimentaire. Donc, c'est aussi utiliser le son en science.
Alors, moi, je m'appelle Julie. Et pour compléter, et aussi ce qui a été dit juste avant, c'était moi plus par rapport au manque d'eau. Et là où j'en ai pris conscience, c'était en 2022. J'ai pas creusé davantage, mais j'ai appris que le Cosmégen, en fait, était plus alimenté en eau potable par le système classique et qu'ils avaient réquisitionné des camions-citernes pour remplir et alimenter les tuyaux. Et en fait, je me suis rendu compte un peu de la vulnérabilité qu'on pouvait avoir ici, malgré toute l'eau qu'il y a partout, surtout quand on est en haut. Et ça répondait aussi à un moment, il y avait eu des interrogations fortes. Donc là, c'était sur le Larzac par rapport à l'autoroute qui passe et au bassin de rétention pour récupérer les eaux usées. Les bassins qui n'étaient pas du tout aux normes. Et en cas d'accident vraiment grave sur l'autoroute par une pollution liquide, il n'y avait pas de système de sécurité. La conclusion, a priori, c'était qu'il n'y avait plus d'eau potable sur le Larzac et que c'était comme ça, quoi. Et voilà. Et de cette prise de conscience-là, ici, je me suis demandé les deux fois, mais sans aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est pour ça que je me suis inscrite à cet atelier, parce que les explications de ce matin, elles m'ont... Enfin, voilà, ça m'a parlé. Je me suis dit qu'en fait, en tant que citoyen aussi, on peut réfléchir, essayer de trouver des solutions ensemble et... Et voilà.
J'aime bien l'idée que l'eau qui déborde, parce que le sujet est vaste et que l'eau peut déborder dans tous les sens, positivement comme négativement. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et puis d'être responsable en tant que citoyenne par rapport à cette eau. Et c'est déjà quelque chose qui me questionnait auparavant. Et j'ai l'impression de l'approfondir comme l'eau creuse son chemin, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait à cet atelier? C'était un tour de parole. On a commencé par mettre sur des post-it notre relation. Il y avait 4 questions qu'elle nous a demandées. Et à partir de ces 4 questions, il y a un débat qui s'est créé. On a dépassé largement les questions en fonction des pratiques, des connaissances, des inquiétudes aussi de chacun, et de voir qu'est-ce qui se fait aussi positivement. Il y a des choses qui ont été présentées, ça aide à avoir confiance, et le travail est encore à faire. Il y a beaucoup de mentalités à changer. Et cette sociologue, elle joue son rôle de sociologue, elle donne la place à la parole citoyenne, et cette parole citoyenne, elle est nécessaire pour être mélangée à celle scientifique, et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en restant chacun de son côté, cloisonné soit dans les universités ou soit dans les associations citoyennes. Que tout ça se mélange, ça me fait extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur.
Remettre au centre la parole et la puissance d'agir citoyenne et la concertation d'acteurs différents du territoire, c'est un des objectifs de ces journées d'études organisées par le MUMIG et la chaire Habitabilité de la Terre et Transition Juste. C'est aussi un aspect qui a marqué les participantes et participants.
Ce qui m'a plu, c'est cette idée justement de concertation multi-acteurs, de pouvoir parler aussi de ce qui vient du local et après peut-être en tirer certaines réflexions, recommandations qui pourront peut-être être portées aussi au niveau des politiques publiques. Pourquoi pas ? Je ne sais pas quelle sera la finalité de ces ateliers, mais ça peut être une idée en tout cas. Ce qui était important, c'était d'écouter déjà qu'est-ce qui ressortait de l'expérience de chacun, parce que moi je suis arrivée en fait il n'y a pas très longtemps dans le coin, donc ça me permet aussi de voir comment les habitants s'approprient ce territoire qui est assez particulier, et puis aussi moi de pouvoir mettre en dialogue aussi ma perception justement de ce territoire qui est assez singulier.
Ce qui m'a plu, c'est vraiment de voir tellement de profils différents en fait ici, des profils différents mais qui se rejoignent tous sur un point, rester en connexion avec que ce soit l'environnement mais le monde autour de nous par rapport à l'usage de l'eau, ne pas bénéficier de la nature sans donner quelque chose en retour en fait. Moi ce qui m'a vraiment marqué c'est ce côté que je pense souvent, c'est on fait partie d'un écosystème en fait. On n'est pas séparé de la nature et je pense que voir toutes ces personnes, même si elles viennent de milieux différents, penser la même chose, ça donne un espoir en fait.
Et puis, quand on fréquente les cavités, parfois on tombe sur des choses un peu surprenantes.
Cette première journée d'études consacrée à la terre et à l'eau s'est terminée par une soirée ouverte au grand public où les chercheurs et chercheuses étaient invités à partager leur rapport sensible à leurs objets d'études, l'eau et la terre. Un exercice pas si évident, mais qui leur a permis de présenter leur recherche universitaire de manière décalée et insolite.
Et donc, alors peut-être que je vais commencer à dériver. C'est là où tout peut se compliquer parce que...
Philippe Vernant, géologue.
Évidemment, celle-là, elle ne parlait pas beaucoup de Faderelle. Par contre, on peut en croiser encore, parfois, sous terre. Et là, ça devient plus compliqué, en fait. Parce qu'elles vont vous envoûter, vous jeter un truc, et vous vous retrouvez à devoir discuter avec des ethnologues, des anthropologues, et vous terminez dans une soirée où on vous demande de faire un truc que vous n'avez jamais fait. Parlez-vous. Et de votre vie, alors qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est de parler de la terre et des mouvements des plaques, quoi. Donc, là-dessus, je vais sortir ma boîte, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir ce qu'il y a dans ma boîte. Alors, il y a un marteau. Celui-là, il a pris beaucoup l'avion aussi. Mais ceci dit, je casse pas tant de cailloux que ça. Je suis pas si extractiviste que ça, même si je suis géologue. Et il y a beaucoup planté de clous pour les parquets aussi. Là, celui-là, c'est un galet. Alors je sais pas, on peut le faire circuler. Ça vous dit. Celui-là, il va vous raconter une histoire.
Cédric Champollion a raconté son attachement à la terre, qui prend une forme particulière sur le Larzac.
Quand je suis arrivé sur le Larzac, on fait la spéléo. La spéléo, c'est pas comme ça. C'est assez marrant, l'attachement en spéléo, il n'est pas entre deux personnes, il est entre quelqu'un et la roche. Le lien à la terre, en spéléo, il existe tel quel. S'il n'y a pas la corde, le monsieur qui est là, je ne sais pas qui c'est, il tombe. La spéléo, on a un attachement réel, physique, à la terre. Et j'ai beaucoup aimé ça. Quand je réalisais ça il y a quelques temps, cette différence qu'il y a entre les Alpes, où finalement c'est des liens entre les hommes et la corde, et là, on a des liens directs avec notre environnement, la roche, grâce à la corde en spéléologie. La dernière chose que j'ai, je pense que c'est pas la dernière, c'est la première. Ce pourquoi je suis sur le Larzac, pour travailler, faire la recherche. J'ai mis liberté, alors c'est un gros mot. J'adore cette photo, elle n'est pas sur le Larzac, elle ne parle pas du quart, tout ça. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on y voit, donc on est en Ardèche quelque part avec des collègues, on parle de zone critique. Zone critique, c'est un terme pour dire l'approche surface, là où il y a de l'eau, des bêtes, etc. Au premier plan, il y a le team casquette, c'est moi. Le team bonnet, c'est un collègue très sympa, demeurant, plutôt alsacien. Et c'est une discussion de chercheurs, classique. Ce que j'aime dans cette photo, c'est le photographe. On avait un journaliste photographe avec nous pour faire son boulot. Et il regarde, il photographie autre chose. Ce qu'on voit ici, pour moi, ce qu'il illustre, c'est on parle du Larzac, on parle de ce qui se passe en surface, et le journaliste regarde ailleurs. Et je suis content qu'il regarde ailleurs. Parce que ça veut dire que moi, nous, collègues, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, et on peut faire ce genre de manip. Alors là, ce qu'on a vu, c'est un gravimètre. On peut aller peser les montagnes. Peut-être que d'ailleurs, certains ont voulu peser les montagnes avec. Du coup, les géants sont fâchés, puis ils sont partis. Parce que l'homme, avec ses magnifiques technologies, remplace les géants. Les géants sont vexés, sont partis. Peut-être qu'on va leur demander. Moi, je ne pèse pas les montagnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pèse, avec un gravimètre, on mesure la gravité. Et donc, on pèse est-ce qu'il y a plus ou moins d'eau dans le sous-sol. C'est l'objectif. Et dans cette photo, le gravimètre, il n'est pas intéressant. C'est de la pure technologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait du gravimètre pour avoir est-ce qu'il y a plus ou moins d'eau dans le sous-sol. Mais cette photo qui est prise par l'ancien thésard, il y a la végétation dessus. Et puis au fond, il y a un mouton qui est intéressé d'ailleurs. Il y a des moutons, je suis en train de faire leur faire le cours. Pourquoi ils ne sont pas intéressés? Et ce qu'on va explorer en mesurant l'eau dans le sol avec le gravimètre, hein, c'est pas l'eau dans le sol. Ce qu'on cherche à explorer, c'est comment l'eau dans le sol impacte la végétation. Alors là, c'est de l'herbe, ça pourrait être des arbres. Comment le parcours impacte la végétation? S'il y a plus ou moins d'arbres, il y a plus ou moins d'évaporation, d'infiltration. Et ce qui est intéressant finalement, c'est ce qu'on voit là, explorer depuis la surface ce qui se passe sous terre entre les usages du sol, la végétation et l'eau souterraine qu'on suit avec ce gravimètre. Cette liberté-là, et bien sur l'Arzac, je l'ai. Parce que quand on a commencé, ce n'était pas gagné que ça marche. On peut tester, puis ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et bon, souvent, ça marche.
La sociologue Christelle Gramaglia a évoqué aussi ce qui l'a incité à participer à cette journée d'études et des souvenirs familiaux liés à l'eau.
Dans mon enfance, si je me souviens bien, ma mère n'aimait pas l'eau. Elle me donnait tout le temps du sirop à boire. Enfin, j'ai grandi à l'embouchure du Rhône. Et l'eau, pour moi, c'était aussi mon grand-père qui se levait la nuit pour aller prendre son tour d'eau pour irriguer. On est l'eau du canal hein, qui arrivait. Il fallait faire pousser le fourrage et donc irriguer. Donc c'était l'eau, pour moi, c'était aussi cette contrainte-là. J'ai grandi à l'embouchure du Rhône et puis là, on allait plutôt à la mer. Mais quand même, bon, la curiosité l'a emporté. Je me suis dit, venir au musée de Millau, j'y suis jamais allée. J'ai envie de pousser un peu les murs du laboratoire et de l'université. Ça tombe bien. Je vais aller passer une partie du week-end à Millau et rencontrer plein de collègues sympathiques.
Avant d'échanger avec la salle, Nastasia Martin, anthropologue et titulaire de la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a lu un texte puissant sur notre rapport à l'eau à l'ère du bouleversement écosystémique que nous vivons.
Abyssal est certainement l'adjectif qui revêt la plus syntonique correspondance avec une réflexion sur l'eau. Il y a tellement d'eau. Les eaux du haut et les eaux du bas, les eaux gelées sur les hautes montagnes d'où je viens, les eaux qui tombèrent en flocons tourbillonnants au-dessus de ma maison tout l'hiver, les eaux en suspension dans le ciel qui montent en vapeur et fondent sur nous en rideaux de pluie, les eaux des sources, de la rosée, des rivières, des fleuves, de l'océan primordial dans lequel se rencontrent les premiers êtres pour créer ensemble une terre sur laquelle habiter. Il y a encore le vertigineux caractère cosmique des souvenirs organiques portés par l'eau, si l'on considère sa relation magnétique au mouvement lunaire et planétaire. Il y a enfin l'eau que je connais le mieux, celle de mes yeux qui pleurent de rage devant l'étendue du désastre, qui pleurent de gratitude quand l'amour se rappelle à moi, l'eau de mes yeux qui recueille le jour pour se souvenir de la lumière et rêver la nuit. L'eau est abyssale à penser, non seulement parce que ses métamorphoses et métastabilisations sont si variées, mais surtout parce que l'élément hydrique rappelle nécessairement à nos mémoires le motif de l'origine. On ne s'étonnera dès lors pas que l'Antiquité occidentale ait fait de l'eau plus qu'un miroir de Narcisse, plus que le support d'une méditation incessante, l'un des sujets principaux de sa philosophie. Comme c'est le cas pour la pensée mythique, poétique et onirique, les philosophies de l'eau, comme l'héraclitéisme, ont su refuser de déserter le site de l'éclosion native. Cela dit, l'abysse qui s'ouvre sous mes pieds pour naviguer la proposition aquatique est probablement d'ordre actuel et politique. Comment parler de l'eau dans un monde littéralement coagulé par la peur ? C'est par là que je voudrais commencer. Si l'eau est à la source de la vie, c'est la peur qui est à la source du matérialisme extractiviste. La peur à laquelle je me réfère ici dépasse la subjectivité de chacun. Elle s'est infiltrée dans la mémoire du tissu social moderne en devenant à la fois chronique et informe, liquide comme l'eau, mais purgée, purifiée de ses pouvoirs nutritifs. On ne sait plus par quel bout l'attraper. Cette peur se démultiplie en se fixant sur une foule d'images désordonnées, suintes et débordent par toutes les portes du collectif, engendrent des politiques d'urgence répétées censées répondre à des états d'alerte incontrôlables. La mise en sécurité est devenue le mot d'ordre par excellence, censée répondre à l'instabilité aux frontières, de toutes les frontières.
Comme l'a écrit si bien Nastasia Martin, ces bouleversements climatiques et écologiques ont une dimension systémique qui s'infiltre dans nos vies jusqu'au plus profond de nos âmes et de nos sentiments. Une des solutions pour dépasser cette peur dont elle parle, dictée par la société capitaliste où nous sommes immergés, c'est de donner vie à de nouveaux imaginaires liés aux vivants humains et non humains qui nous entourent. Repenser nos attachements aux éléments et aux puissances naturelles comme l'eau, la terre, l'air et le feu. C'est tout l'objet des journées d'études du cycle « À la lisière des mondes » organisées par le MUMIG, Musée de Millau et des Grands Causses, un partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior « Habitabilité de la Terre et transition juste » de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin.
En cédant à l'illusion du contrôle des humains sur toutes les autres composantes des mondes, nous avons renoncé à la maîtrise d'une mémoire, celle qui brille à l'instant d'un danger.
Sur les ondes et sur le site de Radio Larzac, radiolarzac.org, vous pourrez retrouver des traces sonores de ces journées d'études, comme ce reportage sur la journée de Terre et d'eau sur les Grands Causses. C'était dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisée par Radio Larzac, en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.